un peu pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Eric Gore, chaque semaine sur les Colligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste.
Bonjour, donc nous sommes au festival Résistance à Foix en juillet 2025. Oui. Et il y a un stand d'information kanak dans le village associatif du festival. Et j'ai donc voulu rencontrer une personne kanak pour nous parler. Alors en tout premier lieu, on parlerait un peu de la situation coloniale en Kanaky. Et puis après, on continuera justement par rapport aux mouvements sociaux, par rapport à la répression, etc. Donc, bonjour, est-ce que tu peux m'expliquer un peu l'état de la Kanaky coloniale, un petit peu? Alors, c'est sûr, ça doit être très long à dire, mais vas-y.
Donc, bonjour à vous et bonjour à tous nos auditeurs. Kanaky a été... reconnu par la France en 1853, donc 172 ans de colonisation actuellement. Nous avons donc, nous faisons partie, hein, l'équipe du mouvement indépendantiste, donc du Front de Libération Nationale Kanaky Socialiste, et actuellement, nous sommes dans une période assez particulière parce que au moment même où je vous parle, sur Paris, il y a des discussions à huis clos concernant l'avenir de notre pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que
nous... Tu dis à huis clos, c'est ça, on en parle, on en discute pas dans les débats, dans l'Assemblée ni rien, ce sont des personnes qui se considèrent apte à le faire et qui, c'est tout, c'est l'armée, il y a quoi
C'est le président de la République qui a organisé cette rencontre à partir du 2 juillet sur Paris. Donc il y a des représentants des non-indépendantistes, ceux qui s'appellent les loyalistes, les représentants du Front de Libération Nationale Kanaky Socialiste, des représentants également du groupe Union Nationale pour l'Indépendance, c'est un groupe institutionnel. Et il y a l'éveil océanien et Calédonie Ensemble. Donc ce sont les différents groupes politiques de Kanaky qui se retrouvent autour de la table avec le président de la République, avec M. Valls en tant que ministre des Outre-mer, pour justement discuter de l'avenir de notre pays. Donc il faut savoir que lors des dernières rencontres qu'il y a eu à Guarodeva, sur Bouraï, en Kanaky, ça a été un échec entre guillemets, quoi. Les non-indépendantistes ont arrêté les discussions là parce que eux, ils sont dans une posture de double fédéralisme en Kanaky.
Mais quand ils disent on va discuter, mais ça n'a pas déjà été discuté, il n'y a pas les accords consignés, ça a déjà été réglé. Normalement, la Kanaky va vers l'indépendance, la République a signé ça.
En 88, oui, avec l'accord de Matignon, ça a été un accord de rééquilibrage, un accord où il fallait ramener la stabilité politique après la période des événements de 84 à 88. Ensuite, 98, l'accord dont vous parlez, c'est l'accord de Nouméa qui a pour vocation la décolonisation de notre pays. Parce que, ben, il est bien dit dans son point 5, d'ailleurs, que la France doit accompagner la Nouvelle-Calédonie jusqu'à sa totale, complète émancipation.
C'est comme ça. Il y avait une date d'échéance ou pas?
Non, par contre, il a été prévu de faire 3 référendums dans notre pays. Le premier référendum a eu lieu en 2018, 43% en faveur du oui.
Pour l'indépendance
et 57% de non. Le deuxième référendum en 2020. Donc il y a eu là une augmentation du oui, puisque on était à 47% de oui et 53% de non. Et après, pour le troisième référendum, ça a été problématique, puisque le troisième référendum devait se tenir en 2022, donc tous les 2 ans. Et l'État français a avancé la date à 2021. Et avec l'arrivée de la Covid-19, ben, c'était pas possible, parce que nous, on était en période de deuil kanak. Il y a eu, de nombreux morts hein, dans le monde kanak, quoi. Et ce qui fait que nous, on n'avait pas terminé justement les coutumes de deuil comme on fait, c'est nos traditions. Hein,
Ils le savaient.
Le Sénat coutumier en Nouvelle-Calédonie, comme les partis indépendantistes, dont ben, le FLNKS, avait demandé le report, même le congrès de la Nouvelle-Calédonie, mais l'État a voulu faire à sa tête, quoi. Et donc, aujourd'hui, on a la situation qu'on connaît.
Là, il y a eu un appel au boycott à ce référendum.
On n'a pas appelé, le FLNKS n'a pas appelé au boycott, a appelé à la non-participation. Je fais attention aux mots parce que c'est vrai que... Parce que pour nous, la non-participation,
C'est-à-dire que tu reconnais que le référendum est nécessaire, mais tu ne participes pas à celui-là.
Tel qu'il était mis en place. Quoi. Oui. Nous, on était partis sur le fait qu'on nous laissait le temps de faire notre deuil kanak, et à la date normalement prévue, soit tous les 2 ans, en 2022, on tiendrait le référendum. On ne pouvait pas, parce que nous, c'est comme ça chez nous, quand nous sommes en période de deuil kanak, on ne peut pas demander aux gens d'aller voter alors qu'on n'a pas terminé le travail coutumier dans nos clans, dans nos chefferies, etc. Donc c'est vrai que c'était tout ça qui...
Et peut-être qu'ils jouaient sur ça, ils savaient que ça ne se passerait pas, qu'ils n'iraient pas voter, et comme ça, il n'y aurait que des votes loyalistes.
Oui, ben,
je
pense que l'État français connaît toute cette stratégie-là. Ce n'est pas un État qui vient de naître, hein. C'est l'État colonial pour nous, donc forcément, il peut trouver... tous les stratagèmes possibles pour pouvoir freiner justement notre pays à son accession à sa pleine souveraineté.
Et quel est l'intérêt de l'État français de garder cette partie comme française?
Moi, je dirais que l'intérêt pour l'État français de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France, c'est les richesses que l'on possède. Donc, il y a certes le nickel, mais là, il y a peu, on a découvert des nodules au fond de nos eaux. Juste pour rappel, la compétence marine, donc là où il y a la mer, etc., appartient au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, mais la compétence nucléaire, donc les fonds marins, appartiennent toujours à l'État français. Et du coup, il y a ça, il y a également la zone de la... La France fait partie également, veut se maintenir dans la zone pacifique, hein, parce que nous avons aussi l'axe Indo-Pacifique qui est prôné par le président Macron. Donc nous, auparavant, on parlait de la zone Asie-Pacifique. Oui. Aujourd'hui, on n'en parle plus de ce mot-là. Tout a changé. On parle de zone axe Indo-Pacifique. Parce que c'est pour montrer aussi le rayonnement de la France dans le Pacifique. Donc, à côté, ben voilà, ce sont des plusieurs stratégies qui rentrent en compte. Il y a également au niveau de la défense, nous, le 5 décembre 2023, il y avait le ministre Lecornu qui était en Nouvelle-Calédonie, qui lui était venu pour justement parler
des armées.
Et il était venu par rapport aux différentes bases militaires également dans le Pacifique. Donc on voit là que la France a besoin aussi de pouvoir continuer à s'implanter dans le Pacifique, d'être là, de regarder un peu ce que font les pays de la région.
Et justement, on peut rappeler un petit peu les colonies dans le Pacifique, dans cette région, autre que la Kanaky.
Pour
un peu le placer dans dans la géographie.
Donc c'est vrai que nous, dans la zone pacifique, là, et tous les pays sont indépendants, à l'exception de 3 pays, que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, avec Tahiti et ses îles, et Wallis et Futuna.
Donc, c'est les colonies françaises.
Donc, ce sont les colonies
Tous
françaises.
Les autres se sont débarrassés des Anglais.
Des Français pour le Vanuatu, parce que c'était...
Vanuatu, oui.
Voilà. Mais il reste que les 3 et nous sommes sous domination coloniale française.
Et là aussi, la France, elle a un intérêt, alors tu as dit les ressources, mais il y a aussi la zone maritime.
C'est-à-dire oui, tout à fait, la CDE, la zone...
C'était immense, il suffit d'avoir une petite île et après on a autour...
Oui. Donc c'est ça aussi qui classe la France dans...
Qui sont des eaux territoriales françaises, on appelle ça. En plein Pacifique.
Donc il y a autour de la Nouvelle-Calédonie, autour de Tahiti, de Wallis et Futuna. Et c'est ça aussi qui fait que la France, elle est grande, elle est une puissance mondiale, elle est la 5e, je crois. Mais c'est grâce à toutes ces colonies.
Qu'elle a gardé partout. Que ce soit Pacifique ou Atlantique.
Partout, c'est ça,
quoi.
Oui.
D'accord. Et là, quand même, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y avait quand même un projet d'autonomie et que là, la France revient sur ses paroles complètement. Et qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps pour que ça mette le feu aux poudres?
Voilà. Donc ces derniers temps, il faut savoir qu'à partir de fin 2023, il y a eu la volonté de l'État français de pouvoir ouvrir le corps électoral. Donc pour que les auditeurs puissent bien comprendre, en Nouvelle-Calédonie, il y a trois listes électorales. Il y a la liste électorale générale comme celle métropolitaine pour voter aux élections municipales, législatives, présidentielles, etc. Il y a la liste électorale spéciale provinciale qui, elle, est une liste qui a été définie par les différents accords, donc l'accord de Matignon et l'accord de Nouméa. Et par rapport à cette liste-là, seuls les électeurs qui sont citoyens calédoniens ont le droit de voter. Donc, qui sont citoyens calédoniens? Ce sont toutes les personnes arrivées avant 1988 en Nouvelle-Calédonie, donc avant la signature de l'accord de Matignon. Mm-hmm. Ensuite, il y a eu une ouverture de ce corps électoral-là pour dire que les personnes arrivées entre 88 et 98 pourraient voter. Donc, ça, c'est l'accord de Nouméa. Et à partir de 98, les personnes arrivées au-delà de 98 ne peuvent pas voter. Et c'est comme ça. Pourquoi ça? C'est pas parce que en Nouvelle-Calédonie, les Kanaks sont racistes. C'est parce que on est dans une situation coloniale. Et comme le pays est sur la liste des pays à décoloniser depuis 1987 à l'ONU, et comme le pays a signé un accord qui vise à décoloniser, et c'est pour ça que nous ne pouvons pas bouger d'un iota sur la question.
Non, parce qu'il y a des accords de signer.
C'est ça.
Sinon, on revient en arrière, il faut tout recommencer.
Voilà. Donc ça, c'est pour la liste électorale spéciale provinciale. Et la troisième liste, c'est la liste électorale spéciale référendaire. Donc sur la liste spéciale référendaire, c'était pour voter justement aux 3 référendums qu'on en parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que... Par rapport à ça, ça sécurise également l'emploi en Nouvelle-Calédonie pour dire que seuls les citoyens du pays ont accès aux emplois les basiques, les plus basiques, femmes de ménage, etc., en montant comme ça. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est que nous avons des arrivées en masse en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est une colonie de peuplement, notre pays.
Hein, de fonctionnaires, de quoi?
De fonctionnaires, de personnes qui viennent pour monter leurs entreprises, etc.
Colonie de peuplement, je veux dire,
colonie de peuplement, ça fait des années que c'est une colonie de peuplement. Ça, en 1972, il faut se rappeler de la lettre de Pierre Messmer, hein, quand il était encore au gouvernement français, qui a dit qu'il fallait faire du blanc sur Nouméa. Donc, il a écrit ça en juillet 72. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. C'est toujours la même situation coloniale dans notre pays.
Ils veulent inverser
justement pour faire taire un peu les revendications indépendantistes. Donc, aujourd'hui, on a la situation qui est là, et justement, pour revenir à votre question sur qu'est-ce qui a mis les feux aux poudres, c'est qu'on a un État colonial qui est à 17 000 km de chez nous et qui prend la décision de vouloir ouvrir un corps électoral qui a été déjà acté par les différents accords et qui a été gelé par le président Chirac à l'époque en 2007. Donc ça a été constitutionnalisé.
Oui, c'est quand même l'État qui se dénie lui-même de ce qu'il a décidé, quoi, en fait.
Voilà, c'est tout à fait ça. Et puis c'est de dire aussi que l'État, pendant des années, on avait été d'accord entre le FLNKS, les non-indépendantistes et l'État, pour dire que l'État doit être impartial. Donc il ne doit pas prendre parti ni pour la droite locale, ni pour les indépendantistes. Il doit toujours être neutre.
Mais oui.
Et là, quand l'État a avancé la date du troisième référendum, on a vu après qu'il est sorti de sa neutralité, de son impartialité, puisque dès que le non est passé à très faible taux, Emmanuel Macron, il fait quoi? Il nomme Sonia Backès, la présidente de la province sud et chef de file des non-indépendantistes, il la nomme secrétaire d'État à la citoyenneté dans son gouvernement. Et peut-être que ça n'a choqué personne, mais pour le monde indépendantiste, c'est un affront de nouveau au peuple kanak. Et par rapport à tout ça, on voit en 2023 la volonté d'ouvrir le corps électoral. Donc la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain qui est née le 18 novembre à Thio, par le mouvement d'Union calédonienne, la plus grosse composante du FLNKS.
Oui, c'est ce qu'on appelle, tu as dit, la CCAT, c'est le mouvement de contestation. Quoi.
Voilà. Mais c'était pour faire des mobilisations pacifiques. Et du coup, plus d'une vingtaine de mobilisations pacifiques ont été faites dans le pays. Des marches, des sittings, etc. Et c'était justement pour dire non à l'ouverture de ce corps électoral-là. Parce que, pour faire simple, l'État français veut ouvrir le corps électoral à 25 900 personnes. Ça représenterait au niveau du quotient électoral pour la liste électorale spéciale provinciale à 14,47%. 14,47%, si je mets sur le corps électoral français, hein, national, ça représenterait l'inscription de plus de 7 millions de personnes d'un coup. Donc c'est quel politique français qui aurait accepté de faire entrer en un jour, en d'un seul coup, 7 millions de personnes?
Surtout que nous, on ne donne pas le droit de vote aux gens qui ne sont pas français et qui peuvent être sur le territoire depuis longtemps. Hein.
Ah oui, mais
en France, la métropole se protège.
Ah oui, oui. Et donc, c'est ça aussi qui nous choque, c'est qu'on va faire chez certains ce qu'on voudrait pas qu'on fasse chez nous, quoi. Donc le discours, il est complètement contradictoire. Et deuxièmement, le gel du corps électoral, il a été fait par un ancien gouvernement français. Donc si le corps électoral a été fait par le gouvernement français, nous on applique.
Vous l'avez respecté.
On le respecte. Donc aujourd'hui, moi je dis oui, les gens ils nous traitent de racistes en Kanaky, ils traitent les Kanaks de racistes, ils traitent les Kanaks comme des sous-gens là qui veulent pas accueillir l'autre. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire que le colonialisme, c'est une maladie qui a été transmise de génération en génération. Il faut que les gens ils se soignent pour penser que les personnes autochtones du pays, le peuple premier, il est en capacité aussi d'avoir un cerveau et de réfléchir à ce qu'il veut pour son pays. Et cette façon de penser, ben, elle nous amène à toujours être en confrontation. Elle nous emmène aussi à toujours croire qu'il y a une ethnie qui veut dominer une autre ethnie. C'est pas du tout ça. Le peuple kanak n'a jamais cherché à dominer les autres. Parce que si c'était le cas depuis 172 ans de colonisation, le peuple kanak l'aurait foutu tout le monde dehors. Mais à côté de ça, ben, on a continué à accueillir, à tendre la main. On a tendu la main, on veut carrément tout le bras. Donc aujourd'hui, c'est la situation qui se passe en Kanaky.
Et les événements qui se sont déroulés, tu disais ça fait comme des ronds-points, il y a eu des blocages, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu disais des événements pacifiques, c'était quand même une volonté de bloquer la société pour alerter, quoi, non?
C'est en ça fait, je parlais des mobilisations pacifiques, c'était l'ensemble des marches, parce qu'on a levé plus de... En Kanaky, l'équipe qui a fait le travail a levé plus de 60 000 personnes hein, dans les rues de Nouméa. Et par rapport à ça, c'est vrai que par la suite, entre le 12 et le 13 mai 2024, les premières usines, les premières entreprises ont brûlé. Aujourd'hui, personne ne peut affirmer qui a brûlé.
Il y avait déjà grève avant ?
Les mobilisations, elles étaient déjà en place à partir du...
Ça a brûlé après.
Voilà. Et ça a brûlé même pas 3 jours après. Donc aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde dit c'est la CCAT qui a brûlé, c'est la CCAT qui a mis le feu, c'est la CCAT jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a aucun... On ne voit pas dans les médias, il n'y a aucun élément qui prouverait que ce sont des jeunes, des Kanaks ou des gens de la CCAT qui ont mis le feu.
Surtout que c'était pas le mouvement.
C'est pas
le mouvement voulait pas ça, puisque
non.
Le but c'était de, au contraire, se montrer, de bloquer, d'être...
De montrer surtout que les gens ils sont debout, mais pacifiquement, pour dire non à ce projet de loi constitutionnelle. Aujourd'hui, la destruction, elle sert qui exactement? Est-ce que ces destructions, elles servent... Est-ce que ces destructions servent... concrètement, elles servent les indépendantistes ou... Est-ce que ces destructions servent les non-indépendantistes? Donc c'est ça un peu le questionnement que tout le monde...
Donc c'était carrément d'empêcher que le mouvement qui faisait tache d'huile, mouvement pacifiste, mais mouvement qui pouvait bloquer l'île, etc.
Oui.
Enfin, comme on fait des grèves...
Après, ce qu'il faut savoir, pour faire court, c'est que le peuple kanak, pendant des années... Quand il n'est pas content après quelque chose, on fait grève et on bloque les accès routiers.
Oui.
Donc c'est les deux seules façons de se faire entendre en Kanaky et ça a toujours été comme ça. Les personnes qui ne comprennent pas que c'est un mouvement pacifique que d'aller bloquer une route pour dire non, les voitures ne circulaient pas, c'est pour montrer notre contestation, c'est qu'ils viennent d'arriver dans notre pays. Parce que les gens qui sont nés chez nous, ils savent que tu mets la bâche bleue, comme on appelle,
oui.
Et puis tu bloques la route. C'est la dernière solution. Mais à aucun moment, il y a eu des mots d'ordre qui sont sortis pour brûler le pays. Parce que il faut savoir, c'est que pour un Kanak, la Kanaky, nous, c'est notre seul pays. On n'a pas d'autre pays qu'en Kanaky.
Donc
on ne va pas mettre à feu et à sang notre pays. Sachant que ça fait des années que nos leaders, nos militants ont lutté pour que notre pays avance. Et voilà, c'est un pays qu'on a tous construit. Donc après, moi je trouve que c'est réducteur que de penser qu'un Kanak, c'est la seule personne sur Terre qui est en capacité de brûler.
Et surtout que, donc justement, face à ces bâches bleues, ces blocages, il y a eu des réactions à la fois policières, des gendarmes, des CRS, mais aussi des colons. Enfin, des colons,
oui.
Bon, j'appelle les colons.
Donc, plus de 3000 unités mobiles, etc. plus de 3000 personnes sont venues dans notre pays, venues, ont fait de la répression policière.
Des arrestations,
tirées avec les bombes lacrymogènes dans les quartiers. Les fumées de gaz lacrymo qui étouffaient tous les gens, notamment des personnes et des enfants handicapés qui étaient dans des appartements. Toutes ces choses-là, on n'en parle pas. Hein. Mais comme ce sont des gens de nos familles, on le sait, nous.
Des gens qui ne pouvaient pas sortir et qui étaient piégés.
Ça. Ils ont fermé la tribu de Saint-Louis.
C'est quoi ça?
C'est une des tribus, d'ailleurs la tribu de Christian Théin. Hein. Ils ont mis un verrou à l'entrée de la tribu et à la sortie. Les gens de la tribu, pour pouvoir sortir chez eux, il fallait tous les jours montrer la carte d'identité. Il fallait tous les jours...
Un couvre-feu carrément.
C'était le couvre-feu. Et ça a été comme ça pendant plus de 6 mois. Donc ça se passe en France, en Kanaky, en 2024. Hein. Et ça dérange personne. Hein. C'est juste ça qui est grave. Donc ça a été abordé à l'ONU justement parce qu'on a eu différentes personnes qui sont parties à Genève alerter, sont parties à l'ONU, à New York alerter, etc. Sonner la sonnette d'alarme comme quoi la France est en train de faire n'importe quoi sur son sol. Il y a eu ça, il y a eu également les milices loyalistes, donc elles étaient armées, mais comme elles sont amies des forces de l'ordre, donc après plusieurs témoignages, on a su qu'elles prenaient le café avec les policiers, il y avait certains des policiers qui donnaient les informations, donc eux, ils ont même passé à tabac un policier kanak, hein. Ils l'ont passé à tabac à Tuban. Et parmi les miliciens, il y avait 2 élus de la province sud, donc les 2 adjoints de Sonia Bakès. Mais eux, ils n'ont jamais été inquiétés par la justice.
Pas arrêtés,
pas entendus, rien. Eux, ils vivent bien parce que ils ont la, on va dire ça comme ça, ils ont la bonne façon de penser, ils ont la bonne couleur de peau. Ils sont du bon côté, quoi. Par contre, si c'est les gens de Kanak, comme actuellement les gens de la CCAT, eh ben, tout de suite, ils sont incriminés, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils sont mauvais, ils ont la mauvaise couleur de peau.
C'est quand même un racisme primaire.
En Kanakis, ce qu'il faut savoir, c'est que le racisme, il est très fort. Aujourd'hui, on a beaucoup de discours, d'ailleurs, de différentes personnalités qui disent que, ouais, les Kanaks, ils sont racistes, ils crient enculés de blancs, les blancs dehors, etc. Mais il faut savoir que quand le jeune Kanak dit ça, il parle de la colonisation. Donc, le blanc en tant que colon, qui vient pour t'imposer une façon de penser, qui vient pour t'imposer l'ouverture du corps électoral, qui vient pour t'imposer des choses.
Et renier les accords.
Renier les signatures, la parole donnée, etc. Par contre, quand c'est le Kanak qui est en capacité de lever son peuple, tout de suite, annoncer le danger, c'est le méchant, c'est sûrement lui qui a... parce que jusqu'au procureur le procureur de Nouméa, du tribunal de Nouméa, il a dit un jour sur la radio non-indépendantiste en Nouvelle-Calédonie, RRB, toute façon, les jeunes sur les barrages, ils sont dopés à l'amphétamine et tout ça. Et au final, il y a peu de temps, 2-3 mois en arrière, là, ils ont réinterrogé le procureur, il disait non, finalement, on n'a pas trouvé de traces d'amphétamine. Je veux dire, le procureur de la République, enfin du tribunal, il était constamment en train de faire des scoops tous les jours contre la CCAT, contre les indépendantistes, contre les Kanaks, contre les jeunes, etc. Le haut commissaire Louis Lefranc, qui a d'ailleurs été muté dans le Finistère, là, ces deux personnes nous ont pas arrêté de charger les Kanaks ceci, les Kanaks cela. S'ils sont pas contents, il y aura la répression en face. S'ils se mobilisent contre une élue, je ne dirais dirai pas son nom, mais de la province sud, il y aura la répression. Et au final, plus les choses avancent, plus on se rend compte qu'aujourd'hui, les prisonniers politiques qui ont été déportés en France, ils ne sont plus dans les prisons. Que plus ça avance, on se rend compte que les choses...
Il n'y a pas de charge contre eux, de toute façon. Des manifestants, quoi.
Il fallait trouver des boucs émissaires, on va dire. Hein. Pour parler clairement, il faut trouver des boucs émissaires.
Quand même, faire une déportation à 17 000 km de chez soi, comment on fait pour se défendre, l'avocat, la famille et tout ça?
C'est une sacrée organisation, puisque l'ensemble des collectifs ici en France aujourd'hui ont beaucoup œuvré aux côtés des familles des prisonniers politiques, parce que les familles, il y a certaines personnes qui ont dû venir également tout laisser en Kanaky pour y venir pour rejoindre leurs proches. D'autres familles n'en avaient pas les moyens, et en plus de ça, tous les prisonniers politiques ont des enfants, dont certains en bas âge, donc il fallait aussi s'occuper des enfants en Kanaky. Donc aujourd'hui, c'est quand même assez gros, quoi, de se dire qu'au 21e siècle, on continue de déporter des gens, alors qu'avant, la Kanaky, ça a été une terre de bagne, de déportation.
Déporter dans l'autre sens.
Donc maintenant, on déporte de l'autre sens.
En plus, y avait, par rapport à cette déportation, si on vient sur ça, par rapport au système carcéral, alors déjà, il y avait une première, c'est quand un Kanak en prison était en fin de peine, soi-disant il fallait qu'il vienne en France pour être étudié, pour savoir si on pouvait libérer avant. Donc, au lieu de... Il était en fin de peine, il pouvait presque sortir, toc, on l'envoyait en France. Mais c'était très peu quand même en nombre. Alors que là, il s'est passé une déportation de masse, en fait, carrément.
Au total, il y a eu 76 déportations environ, des nombres qu'on a, environ 76.
Et en plus, réparties dans les prisons,
dans toutes les prisons
très éloignées en France. Ouais, pas du tout ensemble, c'est-à-dire il y en a dans le nord.
Donc c'est vrai qu'on en parle souvent.
Dans l'Est, beaucoup.
C'est aussi vrai qu'on parle souvent des 7 responsables de la CCAT, mais à côté de ça, il y a eu également des prisonniers, de ce qu'on appelle des prisonniers de droit commun, qui ont été déportés. Aujourd'hui, il y a entre 5 et 6 personnes, que je sache, qui ont été relâchées, parce qu'eux, il leur restait pas beaucoup à tirer en prison. Mais il faut savoir aussi que comment ils ont été déportés, ces jeunes-là du camp Est, pour venir en France. Ça a été vraiment une aberration. On les convoque dans le bureau, on lui dit tu signes le papier, ce soir tu pars en France. Le jeune n'a pas le temps de prévenir sa famille, le jeune n'a pas d'affaires, etc. Tout le monde dans l'avion.
Et le retour après?
Le retour, c'est chacun se débrouille.
C'est-à-dire quand il est libéré en France?
Tout le monde, que ce soit les prisonniers politiques ou les prisonniers de droit commun, pour l'instant,
on les libère
ceux qui vont pouvoir rentrer chez eux doivent régler leur billet. Et moi, je trouve que c'est une aberration, ça. Si l'État fait le choix d'aller prendre des gens dans leur pays, de les emmener en France, il faut qu'il les ramène.
Et ça se fait pas.
Mais là, pour l'instant, non. J'espère que là, pendant les discussions, ils penseront aussi à cette...
Et alors, du coup, il y a des astreintes ou ils sont libérés pour les prisonniers politiques des événements de 2024? Est-ce que c'est des libérations franches ou est-ce que c'est des conditionnels?
Non, là, ils sont... Il faut savoir que les prisonniers politiques n'ont pas encore été jugés, donc ils sont présumés innocents. Et aujourd'hui, ils sont assignés à résidence en métropole.
Ils peuvent pas rentrer.
Donc, ils peuvent toujours pas rentrer. Maintenant, c'est un peu ce que je dis. Hein. On est dans un combat pour dire qu'il faut qu'ils rentrent tous en Kanaky et que les vrais coupables soient jugés.
Oui, parce que quand même, il y a eu des morts, il y a eu des tirs.
Il y a eu 14 personnes qui ont été, qui sont mortes pendant les événements, là. Le dernier soulèvement populaire, ou je sais pas quel terme employer. Mais à côté de ça, ben justement, parmi ces 14-là, il y a 11 jeunes Kanaks qui sont morts entre 17 ans et 54 ans.
Et qui ont été tués par balle ?
Tous par balle. Et 5 d'une balle à la tête.
D'accord.
Donc...
Et on ne peut pas savoir, tir policier, tir...
Il y a eu chez les militants, là, des enquêtes qui ont été faites par le réseau militant. Beaucoup, des policiers également qui n'étaient pas en service. Des miliciens, des flics. Et toujours est-il que ces gens-là, ils ne sont pas inquiétés.
Pas d'enquête, rien.
On nous a dit qu'il y avait une personne qu'ils ont envoyée en métropole, là, dans une prison vers dans le sud de la France. Là. On n'a pas plus d'éléments. Il y a une autre personne sous bracelet électronique, mais je crois qu'il est à Paris, mais qui continue de travailler. Donc je ne sais pas si ces informations-là sont vraies. Mais toujours est-il que, quand bien même c'est vrai, il faut que ces gens-là ils passent devant le tribunal. Parce que ça voudrait dire que la France, et notamment la justice française, ben, se permettrait de dire qu'à Kanak, sa vie n'est pas aussi importante que la vie de quelqu'un d'autre, quoi, de tout citoyen français.
Et par rapport à l'information qu'on avait en France, alors on nous a bien dit qu'il y a deux gendarmes qui sont morts, mais j'ai bien écouté, il y a un gendarme, il s'est tué lui-même, en manipulant son arme.
Il y a un gendarme qui a été tué à la coulée. Et il y a un gendarme qui est mort à l'intérieur de la brigade de gendarmerie, mais ils ont fait comptabiliser ça parmi les morts, pour faire croire que ce sont encore des Kanaks qui ont tué. Non, pas du tout. La personne qui a été tuée à la coulée, ben, l'enquête est en cours, ou peut-être l'enquête est terminée, ça je sais pas. Ils ont voulu faire porter le chapeau au 7 de la CCAT, mais ce chef d'inculpation-là a été enlevé. Donc, ça écarte le fait que la CCAT, je suppose, ait un lien quelconque avec la mort de ce gendarme. Par contre, le deuxième gendarme, tout le monde a, et notamment justement les personnes qui ont beaucoup parlé à la radio, à la télé, pendant la période de l'après 13 mai, là, ils ont beaucoup fait croire que la CCAT avait quelque chose à voir avec deux gendarmes morts. Et au final, on se rend compte que ben, le deuxième gendarme, comme vous avez dit, il est mort à l'intérieur de la caserne. Donc ça n'a rien à voir avec les événements de 2024. Par contre, on ne parle jamais qu'il y a un jeune Kanak qui est mort en prison. Lui, il est mort en prison. C'était le moment où il y a eu l'intervention musclée là, au camp Est.
Le camp Est, c'est celui qui est surchargé.
Surchargé,
horrible. On en a parlé déjà dans l'émission Brut.
Il y a 600 places au camp Est. Oui. Je ne peux pas dire le nombre de personnes qui a plus du double. Ouais. Des conditions pas possibles, très
dégradantes. Alors, ils nous ont vendu ça aussi en disant, mais comme ce n'est pas possible, on les amène en métropole, ils seront plus confortables.
Oui, mais de toute façon, ils disent souvent les choses qu'ils ont envie de dire. Aujourd'hui, la seule chose que je pense que tout le monde n'a pas vu, c'est que depuis 40 ans, notre pays a fait croire que tout va bien. Et le volet social, où on a fait de la politique pour dire que les Kanaks et les Océaniens vont être dans des quartiers populaires et qu'on va s'occuper uniquement du bien-être de la population aisée dans les beaux quartiers de Nouméa, ben, cette politique-là, elle n'était pas bonne. Parce que 40 ans après, ces enfants-là qui ont grandi dans les quartiers, ils sont devenus des plus grands. Et aujourd'hui, ben, ces jeunes-là qui ont été même faire l'école, ils reviennent avec des bacs plus 5, ils sont dans leur quartier parce qu'ils n'ont pas d'expérience ou autre. Ben, ces jeunes-là, ils se sont levés.
Mais ils ont des revendications légitimes, voilà. Tout à fait, oui, ça c'est sûr.
Mais à côté de ça, on refuse de regarder la...
Voilà, les inégalités sont accrues.
Ah oui.
C'est vraiment un État colonial qui se maintient...
Oui, tout à fait. Moi, je dirais que la France, si elle a envie de grandir, elle ferait mieux de décoloniser toutes les colonies.
Tout en plus, il n'y a pas que...
Oui, parce que nous.
On va entendre parler de la Réunion, on va entendre parler de la Guyane, où ce centre spatial, là, c'est une honte, avec tout cet argent et à côté les gens qui meurent de faim.
Oui, mais je veux dire, l'ensemble des colonies aujourd'hui, je veux dire, à la France, elle n'a même plus les moyens de sa grandeur. Je veux dire, s'il y a des problèmes dans l'ensemble des colonies et ils n'arrivent pas à boucler leur budget à Paris, je veux dire, autant pour la France de s'occuper déjà des Français. Parce qu'il y a beaucoup aussi ici en France qui sont malheureux. Mm-hmm. Donc moi, je pense sérieusement que si la France elle a de l'estime pour son peuple, Emmanuel Macron, il doit penser à donner la pleine souveraineté au pays. Après, le lien, c'est ce qui est dit dans l'accord de Nouméa, le lien, il doit être refondé entre le pays souverain et la France. Mm-hmm. Donc on gardera les liens.
Les colons, ils resteront, pas tous peut-être.
Oui, mais je veux dire, la revendication indépendantiste, c'est une revendication inclusive. On inclut tout le monde dedans.
Mais on gère
nous-mêmes notre pays. Après, la personne qui a envie de vivre dans le pays, elle est libre de vivre dans le pays. Mais simplement de respecter les règles qui ont été établies depuis des années, qui ont été inscrites dans les différents accords. Parce que le Kanak, c'est normal, la revendication, elle est légitime. Ça fait plus de 172 ans. On a exterminé des clans, on a chassé des familles de leurs terres pour installer les colons soi-disant libres, alors que les terres n'étaient tout sauf libres. Il y avait un peuple qui était là. Et des fois, aujourd'hui, on entend « Oui, mais moi, ma famille, elle est arrivée à tant de générations. Ça fait tant de générations. » Ben oui, ben nous, ça fait 3000 ans d'existence.
Oui, c'est ça.
Donc,
oui.
Ta génération, elle est à combien, là, par rapport à 3000 ans d'existence? Mais je veux dire, cet argumentaire-là, il ne tient plus la route.
Surtout que c'était un argumentaire tout à fait colonial, puisque c'était au temps où, justement, on occupait les terres et on expropriait les gens. Quoi.
Et surtout que le Front indépendantiste, donc l'ancêtre du FLNKS, en 1980, avait ouvert ce droit à l'autodétermination, donc nous, le peuple kanak, ce droit à l'autodétermination, c'est notre droit. Normalement, il n'y a que le peuple colonisé qui doit voter pour décider si oui ou non il veut l'indépendance. Mais nous, en 83, nos vieux, là, ils ont fait quoi? Ils ont ouvert ce droit à l'autodétermination à ce qu'on appelle les victimes de l'histoire. Donc, tous les descendants et toutes les personnes qui sont arrivées de force ou par leur volonté, par rapport au bagne, au communard, etc. On leur a donné ce droit-là. Aujourd'hui, malheureusement, ces personnes-là n'ont pas réalisé qu'un peuple qui est déjà marginalisé chez lui, que l'État français veut le rendre minoritaire encore de plus chez lui, ce peuple-là, il continue de vous tendre la main. Mais on a l'impression que les gens... Ils vont regarder simplement leur intérêt économique.
Mais il n'y a pas de relation de communication. En fait. Quand on parle du racisme, mais pour eux, c'est toujours les autres. Il n'y a pas de vie commune aussi qui pourrait aider à...
Le destin commun a été une grande phrase. C'est la phrase fétiche de la Kanaki. Tout le monde, oui, mais le destin commun... Nous, on vit ensemble avec les gens du pays. Mais moi, quand je parle de gens du pays, je ne parle pas des Kanaks. Quand on parle de Kanaks déjà, pour moi, le Kanak, c'est tous les gens du pays.
Ben oui.
Ils sont des Kanaks. Après, on peut être Kanak d'origine européenne, Kanak d'origine wallisienne, Kanak d'origine
indienne
ou ailleurs.
C'est
voilà.
C'est des lieux de circulation. Quand
je veux dire, voilà. Déjà, le mot, pour moi, il n'est pas péjoratif. Parce que c'est quelque chose qui doit attirer tout le monde, qui doit intégrer tout le monde, parce que tout le monde a fait le choix de vivre dans ce pays. Aujourd'hui, non. par respect pour le destin commun ou la communauté de destin, il ne faut pas dire Kanak, il faut dire Calédonien.
Ben
la Nouvelle-Calédonie, c'est un mot qui a été emmené par la colonisation.
Oui,
c'est
la Nouvelle-France et tout ça, c'était pendant le temps des colonies. Hein, c'était ça.
Et au fait, c'est la difficulté. Hein. C'est ça aujourd'hui qui fait que, qu'on n'arrive pas à se comprendre. Mais au-delà de ça, c'est le fait qu'en Nouvelle-Calédonie, en Kanaky, l'histoire de notre pays n'est pas apprise à l'école. Donc, nous, on nous apprend la lignée de tous les rois de France, tous les fleuves
les
de France.
Gaulois,
nos ancêtres, ce sont les Gaulois.
Encore maintenant ?
Oui. Aujourd'hui, non. À l'école primaire, on y ajoute des spécificités locales. Mais pas assez, à mon sens. Pas assez, pourquoi ? Parce que la période, justement, de Neuville-les-Roches, on ouvre le droit à l'autodétermination, la question du corps électoral, les différentes phases d'arrivée dans notre pays, la colonisation, l'immigration.
Et la mainmise aussi sur la production de nickel, la
tout ça.
Production.
Quoi, je pense que ça, il faut apprendre à l'école. Parce que quand on a une élue non indépendantiste qui intervient sur la télé de l'Assemblée nationale et qui dit que le système canadien, que c'est un système féodal, je suis désolée, nous on n'est pas le Moyen-Âge en France, nous. Nous on a des us et coutumes qui sont propres à toute civilisation ancestrale et puis toute civilisation.
Et qui s'adapte et qui évolue.
Et qui s'adapte et qui évolue. Et puis nous on a des chefs chez nous, mais c'est comme ça, c'est notre tradition. À côté de ça,
comme si on n'en avait pas, nous.
Oui.
Dans toutes les communes, il y en a.
C'est ça. Mais je veux dire que quand on emploie des mots pour croire, et ils ont un refrain qui revient sans cesse, c'est « on ne veut pas de la domination d'une ethnie sur une autre ».
Ils disent ethnie, ils distribuent, on dit tout ça. Mais l'ethnie Bolloré, la tribu Bernard Arnault de nos millionnaires et tout ça, ça, oui. On ne parle pas ça. Alors qu'ils sont tous...
On n'en parle pas. Non, et non. Puis je veux dire qu'aujourd'hui aussi...
Mais le fait de dire, c'est un peu dénigré pour montrer que c'est des trucs...
Oui, et puis que le Kanak, il est vieillot, il reste toujours dans le temps de la préhistoire.
Alors que c'est faux, justement, parce qu'on a vu dans les mouvements, ce qu'on disait, c'est que les jeunes ont fait leurs études, etc. Et tout. Et donc, ils sont à même d'apprécier tout ce que tu as développé par rapport au non-respect des accords. Et c'est pour ça qu'ils revendiquent, en fait. Parce qu'ils le comprennent très bien, quoi.
Oui, tout à fait. Mais c'est un peu... Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que auparavant, nos vieux, ils faisaient la lutte avec les peu de moyens qu'ils avaient. Mais il parlait très bien le français, il s'exprimait bien, etc. Et il montrait que déjà, le peuple autochtone, il était en capacité de se lever. Mais aujourd'hui, comme vous dites, et également avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec l'arrivée des nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec les études, parce qu'on a beaucoup poussé les jeunes Kanak, mais voilà, le jeune Kanak dans son ensemble, dans sa diversité ethnique, on l'a poussé à justement étudier, à devenir des responsables pour le pays, etc. On voit aujourd'hui que les personnes qui viennent en métropole, comme qui étudient au pays ou au Canada, etc., ils ont compris. Ils ont tout à fait compris que ce qui se passe dans notre pays, c'est pas normal. C'est tout sauf normal. C'est pas normal que dans des quartiers, il n'y a que des blancs, comme à Lansvata. Et si on a 98% de blancs qui habitent dans un quartier, et qu'après et que dans les quartiers populaires, il y a 98% qui sont Kanak et océaniens, c'est pas normal.
La mixité, c'est de la ségrégation.
La mixité sociale, elle est où? Quand on a des lieux où le Kanak est toujours femme de ménage ou homme d'entretien, ou voilà, serveur, etc. C'est pas péjoratif du tout, hein. C'est pas en fonction du métier, mais c'est simplement pour expliquer.
Oui, c'est la classe sociale.
Au niveau de la classe sociale aussi, il n'y a pas d'avancée considérable. On a des Kanaks qui ont fait leurs études, etc., mais c'est encore faible.
Et après, ce qu'on nous dit aussi, mais on l'a dit aussi pour l'Afrique du Sud et pour d'autres, que c'est quasiment impossible, alors le racisme des Kanaks contre les Blancs, soi-disant, et que c'est impossible, parce que ça veut dire que les colons, les Français blancs vont perdre ou ne pourront pas, on ne peut pas séparer. Or, on voit en Afrique du Sud, même si ce n'est pas une réussite, mais l'Afrique du Sud a quand même réussi à casser l'apartheid.
Oui, quand même. Mais je veux dire que par
rapport... Les choses impossibles sont réalisables, quand même.
Oui, les choses impossibles sont réalisables. Et puis, moi, je suis convaincue qu'un jour ou l'autre, on pourra prendre notre liberté, la liberté de notre pays. Parce qu'une chose est claire, c'est que un Kanak, peu importe où il est dans le monde entier, il a toujours à cœur son pays. Et ce que les gens n'ont pas compris, c'est que avec tout ce qui s'est passé, avec le sang qui a été versé. Nous, on dit le sang versé, ce sont la mort de nos jeunes, de nos militants, etc. Mais, et même la déportation des prisonniers, etc. Une chose est claire, c'est qu'on ne renoncera jamais aux rêves de nos pères. Et ça, il faut qu'à un moment donné, ça rentre dans leur cerveau, dans leur tête, de se dire que peu importe les époques, peu importe le temps qu'il faudra, mais quand un peuple se lève pour quelque chose de juste, quelque chose de noble, parce qu'il en est question de sa dignité, de la dignité du peuple Kanak, ben rien ne pourra arrêter ça.
Et ce qu'il faudrait, c'est aussi, parce que ce qu'a peur la France coloniale, la dernière puissance coloniale, c'est que ça fasse tache d'huile, parce qu'elle en a d'autres colonies, et en fait, en effet, il va falloir les lâcher toutes, de toute façon, d'une oui. façon ou d'une autre, et ça, elle a peur de ça, c'est peut-être pour ça que la répression est si forte, que ça donnerait des idées aux autres départements français, comme on dit.
Oui, mais je veux dire que c'est...
Est-ce que vous avez des contacts, justement, avec des gens qui auraient des revendications quand même?
Oui, il y a le Front indépendantiste de décolonisation qui a été mis en place à Nouméa en 2024, qui regroupe la Kanaky, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Corse, etc., donc plusieurs peuples qui demandent
leur autonomie,
leur indépendance. Voilà. Et du coup, je pense que c'est une bonne chose qu'ils se fédèrent, qu'ils soient ensemble, que les luttes elles convergent ensemble. Parce que je vais pas dire l'ennemi est commun, mais le colonisateur est le même.
Et puis pour dénoncer que dans chacun de ces pays que tu as parlé, c'est la même politique qui est en route, le même capitaliste qui écrase, etc.
Mais c'est surtout l'économie de comptoir. Hein.
L'économie de comptoir.
Moi, j'appelle ça l'économie de comptoir.
Comme autant des colonies, comme on dit.
Bien sûr. Quand on voit les prix élevés en Martinique, à La Réunion, à la Guadeloupe, en Kanaky, on voit que c'est les mêmes personnes qui gèrent l'économie dans toutes les colonies. Je parle là du groupe Bolloré. En Kanaky, on a une dizaine de familles qui sont les familles les plus riches de notre pays, qui descendent bien sûr des colons. Est-ce que c'est normal en 21e siècle?
Ça c'est moyenâgeux. On
oui.
pouvait leur renvoyer.
Oui. Ah, oui, tout à fait. Mais à côté de ça, on est... Voilà, je pense qu'il faut continuer à se dire que les choses elles peuvent avancer. Et puis, moi, j'ai foi en la jeunesse, et notamment la jeunesse kanak d'origine européenne, etc. Donc, eux, ils se disent des Calédoniens, parce que le mot kanak leur fait peur. Mais c'est pour dire que moi, j'ai confiance dans le fait qu'ils font des études aujourd'hui et qu'eux sont en capacité de voir ce que leurs aînés n'ont toujours pas compris par rapport au peuple Kanak. Que le peuple Kanak n'est pas un peuple qui veut rejeter les gens. C'est pas un peuple qui est là parce qu'ils croient tous que dès qu'on va prendre l'indépendance... on ne pourra pas gérer le pays seul. On va se faire bouffer par la Chine et d'autres pays. Aujourd'hui, y a d'autres puissances étrangères. C'est eux qui financent les indépendantistes. Je veux dire qu'à un moment donné, cette jeunesse-là, à eux d'ouvrir aussi leur bouche, quoi. C'est ce que j'ai envie de dire. Faut pas que nous, le peuple kanak, on a déjà tendu la main. On a tendu la main, on a tout fait pour qu'ils soient chez eux. On a tout fait pour qu'ils pensent qu'ils sont chez eux. Aujourd'hui, on a besoin d'eux aussi. Cette jeunesse calédonienne-là, qu'elle ouvre un peu sa bouche pour dire ce qu'elle pense. Parce que aujourd'hui, on entend des hommes politiques qui parlent, mais ils parlent pour favoriser les gens qui sont expatriés dans notre pays. Ils favorisent les oreilles, comme on appelle chez nous, les Français qui arrivent parce qu'ils ont envie de se faire du sou, parce qu'ils veulent travailler, s'installer, etc. Ce qui est une bonne chose en soi.
Mais pas
au détriment d'une revendication, pas au détriment d'un processus de décolonisation. Donc aujourd'hui, moi, je lance un appel à toute cette jeunesse calédonienne qui sont en France. Levez-vous, prenez la parole et dites ce que vous en pensez. Parce que, au fait, demain, toutes ces personnes-là, elles seront plus là. Ou si elles décident de repartir en France, ben elles repartiront chez elles en France ou ailleurs dans le monde. Mais cette jeunesse calédonienne-là, elle est de chez nous et de nulle part ailleurs. Donc demain, on va se retrouver encore entre nous. Aujourd'hui, on a vu que la France, dès qu'elle fait bouger le petit doigt à Paris, ils décident ceci, cela. Après, ils envoient les forces de l'ordre. Et puis, c'est toujours les mêmes Kanaks qui se font tirer dessus. Et les Calédoniens, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils disent quand ils voient ça? Est-ce que c'est normal pour eux que notre situation, elle est toujours aussi compliquée en 2025? Je ne sais pas. Mais moi,
Après, moi, par rapport au fait qu'on soit une radio ici en France, à Toulouse, je trouve important que les Français de métropole soient informés de ce qu'on fait dans les colonies, comment ça se passe. Parce que l'information, elle est quand même coupée.
Ah,
les
oui.
journalistes, à part des réseaux militants, qui sait ce qui se passe? On sait que les Kanaks se sont révoltés, qu'ils ont tué, et puis voilà, quoi.
Ah, oui.
Ils sont en colère, c'est tout ce qu'on sait.
Voilà. Ouais. Et c'est vrai que moi, je remercie déjà votre radio. Je remercie les comités de solidarité aussi sur Toulouse qui font un gros travail et surtout toutes les personnes aussi qui sont à l'écoute, qui ont compris le message que je voulais faire passer, surtout de rappeler que la Kanaky, 172 ans de colonisation, on nous dit qu'on n'est pas prêt pour l'indépendance. Emmanuel Macron parle de repousser encore à 15 ans, etc. Moi, je pars du principe qu'on a eu 172 ans pour nous préparer à l'indépendance. Donc, si avec les 172 ans de colonisation, on n'a pas appris, c'est qu'il y a vraiment un problème. Mais voilà. C'est simplement de se dire que ce pays-là, on veut pouvoir être en capacité de le gérer, mais avec tout le monde.
Et avoir le respect des gens qui habitent.
Et avoir le respect
et leur
aussi.
Confiance, et puis penser qu'ils sont tout à fait aptes.
Oui, voilà, c'est ça.
Non, mais surtout, normalement, on devrait indemniser, puisque les méfaits de la colonisation, quand même, ça a été du vol, du pillage.
Oui, nous, on parle.
Du vol et du pillage, quand
dans,
même.
Dans notre façon de parler politiquement, au niveau. On parle souvent de.
C'est pas l'indemnisation, c'est.
Non. C'est le contentieux colonial qu'il faut régler. Hein. Mais ça rejoint ce que vous dites. Hein. C'est le règlement de ce contentieux colonial qu'on a avec la France. On pourrait avoir de bonnes relations. On pourrait justement sortir par le haut, là, actuellement, les discussions qui se passent à Paris. Donc là, il y a 2 jours de ça, on voit que le président Macron ne veut pas qu'on parle d'indépendance ou de pleine souveraineté ou de souveraineté avec la France. Il revient avec le mot la France, la Calédonie est française et française. À un moment donné, il faudra aussi qu'il puisse...
Arrêter,
parce que... dire notre peuple, il a tant souffert qu'à un moment donné, voilà. C'est comme tous les peuples du monde. Hein.
Bah oui.
Et c'est comme chaque être humain sur Terre. Hein. On a besoin de liberté, on a besoin de se sentir bien dans son pays, de se sentir chez soi.
D'être considéré, d'être debout, comme on dit.
Oui, surtout d'être debout. Mais surtout d'être respecté pour ses idées. Je pense que c'est important.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de très dur, mais d'être très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassul, à Toulouse, donc bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.